Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Vous le savez, la France a élu dimanche 7 mai un nouveau président, Emmanuel Macron. Outre sa jeunesse, l'une des caractéristiques du président Macron, c'est qu'il a passé 4 ans à travailler au sein d'une banque d'investissement, la banque Rothschild, ce qui lui a valu au cours de la campagne, et avant même la campagne, de nombreuses attaques, car selon Marine Le Pen, par exemple, le banquier n'aurait pas de cœur.
Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques. On a vu les choix que vous avez faits dans ce second tour, des choix qui sont des choix cyniques et qui révèlent peut-être la froideur du banquier d'affaires que vous n'avez probablement jamais cessé d'être.
Selon Jean-Luc Mélenchon, le banquier, lui, serait un traître.
Il y a eu un moment dans la vie où lui et moi, on a été sur la même ligne de départ. Nous étions en 2008. Tous les deux, on avait une carte du Parti Socialiste dans notre poche. Moi, j'ai rendu ma carte pour rester fidèle à mon idéal et reprendre le combat, notamment avec les communistes. J'avais 57 ans et lui en avait 31. Il a rendu sa carte pour aller à la banque Rothschild.
Enfin, selon Benoît Hamon, le banquier aimerait par-dessus tout l'argent.
Nul ne peut servir deux maîtres. La République et l'argent. Le peuple et l'argent. La France et l'argent. Dans cette campagne polluée par l'argent, ils pensent à la taille de leur château, de leur compte en banque ou peut-être de leur costume.
Au cours de la campagne électorale, Emmanuel Macron a été représenté sous les traits d'un homme au nez crochu, au gros cigare et au chapeau haute forme. Une claire allusion antisémite à la banque Rothschild où a travaillé Emmanuel Macron, ce qui a fait dire à l'historienne Annette Vievorka dans une interview au journal Le Monde que si Emmanuel Macron avait travaillé au Crédit Agricole et pas chez Rothschild, on ne lui aurait pas collé l'étiquette de banquier, ce qu'Emmanuel Macron disait déjà lui-même le 16 octobre 2014, alors ministre de l'économie, au micro de Patrick Cohen sur France Inter.
J'ai fait 4 ans dans ma vie de banque. Vouloir me réduire à un banquier parce que c'est bien pour attaquer, parce que c'est bien pour salir, je trouve ça minable. Ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors je sais que M. Mélenchon, Mme Le Pen s'amusent à le faire tous les jours. Ça renvoie aux heures les plus sombres de notre pays. Je ne répondrai pas à ça, mais je demande juste une chose. C'est que lorsque je propose des réformes pour le pays, on ne m'attaque pas sur ce que je suis. Parce que, somme toute, ce que j'ai fait pendant les 4 ans d'expérience dans le secteur privé m'est très utile aujourd'hui. Et vous savez, ça n'est pas une mauvaise chose d'avoir un peu fréquenté la vie des entreprises pour s'occuper d'elles.
Si Emmanuel Macron est attaqué pour son passé de banquier, c'est aussi parce que depuis la crise mondiale de 2007, beaucoup de forces politiques ont fait de la finance et de la banque, des financiers et des banquiers, les incarnations modernes du mal, des forces vouées à concentrer les richesses au profit de quelques-uns au détriment de la grande majorité, enfin d'une mondialisation malfaisante. D'où la question qui est au centre de cette émission, faut-il avoir peur des banquiers, que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Marianne Barbalayani.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Marianne Barbalayani, vous êtes énarque, vous avez passé 15 ans à la direction du Trésor, la toute puissante direction du ministère des Finances. Vous avez aussi travaillé au Crédit Agricole, l'une des grandes banques françaises. Et vous êtes aujourd'hui la directrice générale de la Fédération bancaire française. Ces attaques contre Emmanuel Macron, qu'on relatait à l'instant, elles vous ont choquées ?
Je trouve qu'elles sont très douloureuses pour les 370 000 salariés des banques françaises. C'est douloureux pour leurs clients aussi, qui vivent une relation quotidienne avec les banques. Hein. Bon, je ne méconnais pas les images emblématiques, etc. Je trouve que c'est pas forcément très à l'honneur d'une campagne électorale de s'être replongé dans ce qui a été qualifié des heures noires de la République. Moi, j'ai entendu avec intérêt André Comte-Sponville, le philosophe, qui a réagi à tout ça. On lui demandait comment est-ce qu'il expliquait tout ça. Il disait d'abord par la sottise et par la passion. Et puis aussi, il a dit quelque chose qui est assez juste. Il a dit finalement dans toutes ses interventions, soit on interdit le métier de banquier, soit eh bien on ne réduit pas les gens à un métier dont on est fier d'ailleurs.
Alors on continuera à en parler dans l'émission. Avec nous également dans ce studio, Jésabelle Coupet-Soubéran, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Jésabelle Coupet-Soubéran, vous êtes conseillère éditoriale au CEPI, un des grands centres de recherche économique français, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous y enseignez l'économie financière et monétaire et dirigez une formation de troisième cycle consacrée aux risques bancaires. Et vous avez publié en 2015 un livre intitulé « Blabla Banque, le discours de l'inaction », édition Michalon, dont il sera question pendant l'émission. Ces attaques contre Emmanuel Macron, banquier, elles vous ont choqué ?
Bien sûr que ça me choque, dans la mesure où c'est du bank bashing. Et je pense, si vous voulez, que ça ne contribue pas au débat. Personnellement, je m'intéresse, dans le cadre de mes travaux, aux dérives du secteur financier, à la financiarisation excessive de l'économie. Mais si on caricature le débat, si on tombe dans le bank bashing, si en plus on y ajoute, effectivement, vous l'avez relevé, des relents antisémites, eh bien, on ne progresse pas. Ce n'est pas ainsi qu'on arrivera à faire progresser la régulation financière, l'encadrement du secteur bancaire et financier. Bon, après, il faut distinguer, si vous voulez, ce qu'on a entendu chez Marine Le Pen, ce qu'on a entendu chez Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on a entendu chez Benoît Hamon. Chez Jean-Luc Mélenchon...
On y reviendra
d'accord,
dans l'émission.
Entendu.
Hein. Je vous coupe parce qu'au cours de cette émission, on a des rendez-vous avec nos correspondants à l'étranger, Pierre-Yves Dugas à Washington, Pascal Thibault à Berlin et avec Angélique Forget à Shanghai. Alors je vais donc vous poser à toutes les deux la question qui est au cœur de l'émission, qui en fait le titre. Est-ce qu'il faut avoir peur des banquiers ? Je vais donner la parole à Jésabelle Coupet-Soubéran. Est-ce qu'il faut avoir peur des banquiers français, puisqu'on parlait de la campagne électorale ?
Il y a quelque chose d'assez effrayant dans ce que sont devenues les banques en Europe et en particulier en France. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Alors, qu'est-ce qui est effrayant ? Ce qui est effrayant, c'est que ce sont aujourd'hui des institutions énormes. On peut parler de véritables mastodontes qui sont en position dominante, pas seulement dans le secteur bancaire, doté d'un énorme pouvoir de marché, mais également en position dominante sur l'ensemble des marchés de capitaux, sur l'ensemble des segments de marché, sur le marché de la dette, sur le marché d'échange, sur les marchés dérivés. On a, si vous voulez, un secteur bancaire organisé dans une structure oligopolistique. Ça veut dire que ce secteur est dominé vraiment par de très gros acteurs. Et ces très gros acteurs, aujourd'hui, sont capables d'entendre. Ces ententes ont été sanctionnées, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Et le problème de cette structure, me semble-t-il, c'est que ça aboutit à des acteurs qui sont plus au service d'eux-mêmes qu'au service de la société. Aujourd'hui, le secteur bancaire ne remplit plus complètement les services qu'on peut attendre de lui. On doit attendre du secteur bancaire qu'il soit au service de l'économie, au service des besoins de l'économie, au service du financement de l'économie, qu'il finance les entreprises qui en sont les plus dépendantes, donc qu'il finance les petites et moyennes entreprises. Le crédit repart, certes, mais moins pour les petites entreprises que pour les grandes entreprises qui en ont moins besoin. Donc il faut arriver, si vous voulez, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, il faut arriver à réorienter l'activité des banques vers les besoins de l'économie. Et pour cela, eh bien, il faut approfondir la régulation financière, il faut poursuivre les réformes, alors qu'on est en passe, au contraire, eh bien, de mettre la pédale douce, en quelque sorte, sur ces réformes.
Marianne Barbalayani, la description d'un secteur bancaire omnipotent, est-ce que cela vous fait peur ? Est-ce qu'il correspond à la réalité ? Ce que vient de dire Jésabelle Coupet-Soubéran ?
Écoutez, ça ne vous étonnera pas beaucoup, non. Ça ne correspond pas à la réalité que je vis avec mes adhérents, à la Fédération bancaire française. Ce que je voulais dire d'abord, c'est, bon, vous avez posé une question, faut-il avoir peur des banquiers ? C'est une question un peu étrange d'une certaine manière. Pourquoi aurait-on peur des banquiers ? Je veux dire, les Français vont dans leurs banques, ont des relations de proximité avec leurs banques. Je ne pense pas qu'ils aient peur. Ils ont parfois peur de ne pas pouvoir rembourser leurs crédits. Ils ont parfois peur de perdre leurs dépôts. Il y a tout un tas de peurs parfois un peu irrationnelles d'ailleurs et auxquelles la régulation, en partie d'ailleurs, vous en avez parlé, je pense que ça sera un des sujets, permet de répondre, de même que la gestion des risques par les banques, hein, qui est évidemment au cœur de leur activité. Alors ensuite, il y a un deuxième sujet qui est, que font les banques ? Est-ce qu'elles sont utiles à l'économie ?
Mais il y a surtout le sujet pour l'instant en tout cas dans ce débat que soulevait Isabelle Soubeyran, de cette omnipotence des banques qui sont des mastodontes qui finissent par se servir elles-mêmes plutôt que servir l'économie.
Mais c'est la même question, c'est à quoi servent les banques au fond? Ben, voilà. Les banques, elles servent à être, je dirais, au service de leurs clients, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Alors on peut considérer que le crédit ne se développe pas assez, ce n'est pas ce que montrent les chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, les encours de crédit, on a passé d'ailleurs le mois dernier la barre des 2200 milliards de crédits à l'économie, qui sont, c'est quoi concrètement? C'est des projets, que ce soit ceux des particuliers. La grosse masse, c'est le crédit immobilier, à peu près 950 milliards. Les projets des entreprises, et ce crédit, il augmente à un rythme de à peu près au-dessus de 5% par an.
Surtout donc, pour les grandes entreprises, en l'occurrence.
Mais pas uniquement pour les grandes entreprises.
Non, pour les petites aussi, mais un petit peu moins. Et le crédit qui domine, c'est effectivement le crédit aux particuliers, le crédit aux entreprises qui en ont le plus besoin. Si vous le prenez en part du bilan agrégé du secteur bancaire français, le crédit aux PME, c'est 5%. Du bilan agrégé du secteur bancaire français. Expliquez-nous à quoi sert tout le reste.
Mais d'abord, sur le crédit aux PME, ça c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. D'abord parce que c'est la priorité stratégique numéro un des banques françaises, telles qu'elles se la sont définies au sein de la Fédération. Pourquoi ? Parce que évidemment, les PME sont celles qui ont le plus besoin parmi les entreprises du crédit bancaire. Pourquoi ? Parce que, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, la régulation a fait le choix de réduire la part des banques dans le financement de l'économie. Non. Et que donc, écoutez, c'est ce qu'on voit dans les chiffres.
Hein, On y reviendra.
En tout cas, la part des banques dans le financement des entreprises se réduit progressivement. En France, on est passé de 70% de financement par les banques, 30% par les marchés il y a 6 ans à peu près, à 60% par les banques et 40% par les marchés aujourd'hui.
Donc, qu'est-ce qu'on appelle les marchés ?
Ce qu'on appelle les marchés, c'est par exemple tout simplement faire une émission obligataire quand on est une entreprise pour aller se financer plutôt que d'aller faire un crédit dans sa banque, tout simplement. Donc, pour revenir sur les PME, non seulement la Fédération l'a définie comme une priorité collective, mais aussi chacune des banques, dans son plan stratégique, a mis le développement de l'activité avec les PME au cœur de ses priorités. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit dans les chiffres de la Banque centrale, de la Banque de France, que plus de 9 crédits d'investissement sur 10 des PME reçoit une réponse positive dans les banques. Donc, nous avons un dialogue évidemment permanent avec les PME, leurs représentants, etc. On sait bien que au cas par cas, il peut y avoir dans un certain nombre de cas des difficultés, mais qui peuvent être liées tout simplement au fait qu'il faut parfois savoir dire non, ou dire non au projet tel qu'il est présenté et le redimensionner. Mais les chiffres montrent qu'aujourd'hui, à la fois le crédit aux PME augmente plus vite que la croissance économique, hein, d'une part, donc c'est plutôt un moteur, et deuxièmement, que l'accès au crédit et les taux de crédit sont très bas.
Alors, Isabelle Coupé-Soubeyran, une réponse, et puis après, on va partir à Berlin.
Oui, alors, tant mieux si les banques s'engagent à ce que les choses changent. Cela étant, on ne peut pas dire qu'à l'heure actuelle, les PME soient le sujet fondamental pour les banques françaises comme pour les banques européennes. Vous nous dites que la plupart des crédits demandés obtiennent une réponse positive. Mmh. Mais il y a également de l'autocensure dans la demande de crédit des PME. Il y a également une demande de crédit qui a été rendue à tône par les conséquences de la crise financière. Et on ne peut pas dire que les banques soient complètement étrangères au déclenchement de cette formidable crise financière. Par ailleurs, vous reproduisez systématiquement, mais c'est bien normal, vous en êtes l'émanation, le discours du lobby bancaire avec cette rhétorique qui, sans cesse, nous rabâche que c'est la faute du régulateur. Voilà, c'est la faute de la réglementation, c'est la faute de la régulation financière.
Je n'ai absolument pas mis en cause le régulateur.
Mais si vous nous dites la réglementation réduit la part des banques dans le financement de l'économie, et ça, c'est le choix du régulateur.
C'est vrai.
Cela est faux. Mais non, cela est faux.
Alors, on va partir à Berlin. Souvent, l'Allemagne est donnée en contre-exemple positif de ce qui se fait en France. Pourtant, de l'autre côté du Rhin, l'image des banques allemandes est, elle aussi, assez dégradée. Écoutez cette correspondance éco d'ici éco d'ailleurs de Pascal Thibault dans la capitale allemande.
7 Allemands sur 10 ont une mauvaise ou très mauvaise opinion de leur banque. Et une étude internationale sur la façon dont les médias rendent compte de ce secteur montrait récemment que les journalistes allemands étaient plus critiques qu'en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Italie. Pas de surprise, cette même étude montrait que la Deutsche Bank se taillait la part du lion pour la place dans les médias et le plus souvent pour des raisons négatives. Le géant allemand symbolise plus que d'autres la grandeur et la chute d'un secteur central de l'économie germanique, autrefois une institution respectée et reconnue, pilier jusque dans les années 80 de la Deutschland AG avec des participations croisées dans de nombreuses grandes entreprises. La Deutsche Bank a voulu jouer dans la cour des grands et devenir une banque d'investissement anglo-saxonne. Spéculation, manipulation, pratiques douteuses, les scandales sont nombreux, les procès et les frais qui y sont liés coûtent des milliards à une banque au bord du gouffre. Ses responsables sont devenus l'incarnation d'un capitalisme dévoyé dont les Allemands ne veulent plus. Leurs visages ont livré dans le passé du grain à moudre aux caricaturistes et autres cabarettistes. Cela vaut dans une moindre mesure pour d'autres instituts comme la Commerzbank ou Hypo Real Estate, un établissement spécialisé dans le financement de l'immobilier, sauvé par les pouvoirs publics à la fin des années 2000 pour éviter des dommages collatéraux. Deux responsables de la banque devaient répondre il y a quelques semaines de leurs actes devant la justice. Affaires, scandales, crises, salaires et indemnités à la hausse, l'image des banquiers autrefois associés aux bienfaits du miracle économique allemand de grand-papa a bien souffert. Cela vaut surtout, il faut le reconnaître, pour le secteur privé. Les caisses d'épargne et les banques coopératives restent relativement épargnées par ces soubresauts bien peu flatteurs.
Capitalisme dévoyé, disait Pascal Thibault à Berlin. Ça vous interpelle cette formulation, Marianne Barbalayani?
Je crois que la situation est assez différente en France. J'ai été frappée par le chiffre qui a été donné sur l'image des banques auprès de leurs clients en Allemagne, que je ne connaissais pas, pour être honnête. En France, c'est mesuré chaque année par une étude de BVA. Et les Français ont une image positive de leur banque à 78%. C'est un chiffre qui est assez stable, en fait. Et pour la banque en général, on est à 68% d'image positive. On est revenu à peu près au niveau d'avant-crise.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre l'image que les clients ont de leur banque, du guichet auquel ils s'adressent pour retirer de l'argent ou pour contracter un prêt immobilier, et puis l'image que ce même client devenu citoyen a de l'appareil financier, de l'appareil bancaire, de l'entreprise?
En effet, c'est les fameux 10% de différence que l'on voit dans les chiffres que je vous ai donnés. C'est-à-dire que le client qui vit sa relation quotidienne avec sa banque, dans lesquels dans 90% des cas où, je ne sais pas, ça se passe plutôt bien et normalement, a une image positive de sa banque à 78%. Le secteur dans son ensemble a une image qui est positive, mais qui est positive à 68% seulement, pourrait-on dire.
Isabelle Coupet-Soubéran, ces 10% de différence, ils sont significatifs?
Je suis d'accord en tout cas avec cette idée, si vous voulez, que le ressenti est très différent selon que l'on s'adresse à son chargé de clientèle et qu'on a cette relation de proximité avec son banquier, ou selon que l'on considère au niveau macroéconomique, au niveau macro-financier, l'évolution du secteur bancaire. Si on revient sur le cas de la Deutsche Bank, qui est très intéressant.
De la Deutsche Bank.
La Deutsche Bank, cette énorme banque allemande, un des piliers du secteur bancaire européen, c'est un cas très intéressant parce que c'est vraiment un cas emblématique des dérives du secteur bancaire dans les 10-15 dernières années, et surtout, si vous voulez, un cas emblématique de l'évolution du modèle d'activité des banques qui, au tournant des années 90-2000, s'est de plus en plus adossé sur les marchés de titres. Et en développant ainsi considérablement les activités de marché, eh bien, les banques se sont relativement détournées des activités de détail, des activités de financement de l'économie. Alors, je ne veux pas non plus diaboliser les activités de marché. Il y a bien entendu des activités de marché qui contribuent au financement de l'économie. Quand les banques vont acheter sur les compartiments primaires des marchés, ceux où on émet des titres, quand elles vont acheter des titres émis par des entreprises, bien sûr, ça contribue au financement de ces entreprises, partant au financement de l'économie. Mais lorsque les banques sont actives sur ces marchés pour faire du trading, des achats-ventes incessants à une vitesse extraordinaire de titres, ou lorsqu'elles sont hyper présentes sur les marchés dérivés, là, si vous voulez, on s'oriente vers des activités qui deviennent purement spéculatives et qui ne sont plus utiles au fonctionnement, au bon fonctionnement de nos économies.
Isabelle Coupet-Soubéran, Marianne Barbalayani, on continue ce débat dans la deuxième partie de l'émission après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Émission. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cette émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs, consacrée au rôle des banquiers dans l'économie moderne. Point de départ de cette émission, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République le 7 mai dernier et les attaques qu'il a subies pendant la campagne en raison de son passé de banquier, des attaques qu'il va certainement continuer à subir si le climat social se tend. D'où la question qui est posée aux deux invités présents dans ce studio. Faut-il avoir peur des banquiers? Deux invités que je vous présente de nouveau, Isabelle Coupès-Bouberan, conseillère éditoriale au CEPI, maître de conférence à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, également auteur en 2015 d'un livre intitulé « Blabla Banque, le discours de l'inaction » aux éditions Michalon, et deuxième invité, Marianne Barbalayani, directrice générale de la Fédération bancaire française. Vous l'avez dit, vous l'avez évoqué en quelques mots, Marianne Barbalayani, au début de l'émission, le rôle de votre fédération, c'est un rôle de défense, de lobbying auprès des autorités. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire passer au cours des dernières années comme idée politique, comme idée de gestion, de défense de vos clients, de vos mandants?
Alors, le rôle de notre fédération, tout d'abord, nous, on le conçoit prioritairement comme un rôle d'explication sur le métier, sur la façon dont il est exercé et sur ses contraintes. Moi, je suis très frappée par le fait que, au fond, la banque, dans un pays comme la France, est souvent, les gens la regardent souvent d'une manière très idéologique. On parlait de la façon dont les choses se sont passées pendant la campagne, etc., avec beaucoup de préjugés, avec beaucoup d'idées reçues, avec parfois d'ailleurs des idées reçues qui renvoient à des périodes un peu noires de notre histoire, comme on l'a évoqué. Et c'est un secteur qui est quand même très méconnu. C'est-à-dire que quand on regarde les grandes industries françaises qui sont porteuses, qui sont actives, qui sont des moteurs dans l'économie, qui sont stratégiques, la banque en fait évidemment partie. C'est un des rares domaines dans lesquels on a au moins 4 ou 6 grands centres de décision qui sont sur notre territoire, dans un domaine qui est très stratégique parce que la question de savoir...
C'est quoi ces 4 ou 6 grands centres de décision?
C'est les sièges banques. Des grandes banques françaises, oui. Ils sont en France, il n'y a pas beaucoup de domaines finalement dans l'économie française où on a autant de ce qu'on a pu appeler à certaines époques des champions nationaux. Et c'est très important parce que le financement, c'est évidemment ce qui irrigue tout le reste de l'économie, que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises. Et c'est évidemment pas indifférent de savoir où et par qui sont prises les décisions sur le financement de l'économie. Donc pour essayer de revenir à votre question, c'est au fond, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye à la fois d'expliquer le métier, parce que souvent il est perçu comme ultra technique, difficile à comprendre, etc. Donc ça fait partie...
Mais je vous demandais surtout quelles mesures vous aviez impulsées auprès des dirigeants du pays,
oui,
pour réformer, encadrer ou au contraire assouplir le contrôle des banques.
On est un secteur qui est maintenant très régulé au niveau international, européen, moins au niveau français, pour différentes raisons. D'abord parce qu'en Europe, il y a eu un projet très important qui s'appelle l'union bancaire, qui fait que maintenant, pour les banques de la zone euro, à laquelle les banques françaises appartiennent, l'essentiel des décisions se font à la Banque Centrale Européenne à Francfort ou à Bruxelles, et nous avons aussi une instance internationale qui décide de la régulation. Ce qu'on a essayé de faire, c'est à chaque fois qu'il y avait des discussions, soit au niveau international, soit au niveau européen, de mettre en évidence là où il pouvait y avoir des impacts particuliers pour les banques françaises et, par exemple, de défendre des pratiques qui sont très franco-françaises, mais auxquelles, dans certains cas, on est très attaché. Par exemple, le crédit immobilier à taux fixe, qui est une grande caractéristique des banques françaises. On parlait tout à l'heure de sophistication de produits financiers, etc. Au fond, une des activités les plus difficiles pour une banque, si on réfléchit bien, c'est de faire sur 20 ans du crédit immobilier à taux fixe, alors qu'elle se refinance à plus court terme sur les marchés. C'est un service que les banques offrent parce qu'elles ont ce savoir-faire. Elles savent justement, avec les produits dérivés, se couvrir, etc. Il se trouve que pour des raisons X ou Y, C'est une spécificité française qu'on a un petit peu de mal à expliquer à l'international, où il y a peu de risques par rapport à ce que l'on voit dans d'autres pays, dans le crédit immobilier, parce qu'il est aussi octroyé en fonction de la capacité de remboursement des gens et non pas de la valeur du bien, etc. Et ça, c'est un sujet sur lequel on se bat en permanence, parce que comme nous avons un système qui est un peu spécifique, qui est globalement moins risqué que les autres, il est sans arrêt en risque d'être remis en cause par la réglementation internationale. C'est un exemple parmi d'autres.
Alors, Isabelle Coupet-Soubéran, j'évoquais tout à l'heure votre livre Blabla Blanc, et dès les premières pages, vous ciblez la Fédération bancaire française, dont vous dénoncez l'action, le lobbying, et vous évoquez en particulier le rôle de Marianne Barbalayani, que vous rencontrez aujourd'hui pour la première fois. Qu'est-ce que vous dites dans ce livre qui la concerne et qui concerne cette fédération?
Ce que je dis, si vous voulez, c'est que le lobby bancaire n'est pas dans ce rôle d'explication et dans ce rôle de pédagogie que vous mentionniez juste avant. Je crois, malheureusement, que le lobby bancaire, bien plus souvent, est dans une rhétorique qui opère une véritable capture intellectuelle des gouvernants, des entreprises, parfois aussi de l'opinion publique, et qui a permis de contrer très fortement les réformes bancaires et financières de ces dernières années. Alors, quelques mots sur cette rhétorique. On a eu, au fond, quelques petits échantillons.
Vous voulez dire dans ce que vient de dire Marianne Barbalayani ?
Pas dans ce qui a été dit depuis le début de l'émission. Généralement, si vous voulez, ce qu'on entend de la part des représentants du secteur bancaire, c'est que la réglementation, les nouvelles réglementations, donc les réformes bancaires et financières, ont systématiquement des effets pervers. Vous le dites beaucoup à propos des nouvelles exigences de fonds propres. Vous nous dites, c'est en raison du renforcement des exigences de fonds propres que les entreprises ont plus de mal à se financer. C'est de la rhétorique, c'est
faux. Dans la mesure où les banques seraient obligées de stocker plus de fonds, elles pourraient moins prêter aux entreprises, c'est ça?
Alors, vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous me reposez la question en me disant c'est parce que les banques sont obligées de stocker des fonds. Quand les banques sont obligées d'avoir davantage de fonds propres, ça ne les oblige pas à stocker des fonds. Mmh. Les fonds propres sont des ressources comme les autres. Mais la particularité des fonds propres, c'est d'être une ressource non remboursable, qui justement met les banques en capacité d'assumer des pertes éventuelles. C'est pour ça que c'est très important pour les banques d'avoir suffisamment de fonds propres à leur bilan. Enfin, très important pour les banques, très important pour les citoyens que nous sommes, pour les contribuables que nous sommes, parce qu'ainsi, les banques sont en capacité d'éponger des pertes en cas de problème. Donc, vous voyez que ça fait partie de cette rhétorique qui distille des éléments de langage. D'accord?
Donc, éléments de langage. Vous avez été capturé intellectuellement par la Fédération bancaire.
Ben oui,
et
malheureusement,
par les
malheureusement, vous l'êtes, Jean-Pierre. Et donc, voilà, ça, c'en est un exemple. Autre exemple, les champions nationaux. Voilà, pour nous donner cette idée, imposer cette idée que c'est beaucoup mieux d'avoir des mastodontes bancaires, des grandes banques. En réalité, ces grandes banques, ce sont des colosses au pied d'argile. Des colosses au pied d'argile qui, non seulement, si vous voulez, ne profitent pas aux consommateurs de services bancaires et financiers, parce que ce pouvoir de marché énorme dont elles jouissent, eh bien, leur permet de facturer leurs services plus cher, et par ailleurs, ce sont des institutions dites systémiques, c'est-à-dire qu'en cas de difficulté, eh bien, elles peuvent entraîner dans leur chute tout le secteur et avoir ensuite, eh bien, des conséquences extraordinairement négatives pour l'économie réelle. Donc, ces mastodontes bancaires, très sincèrement, il n'est pas certain qu'on en ait besoin pour mieux faire fonctionner le secteur bancaire et pour mieux contribuer au financement de l'économie. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faudrait une myriade de petites banques en concurrence les unes, en parfaite concurrence les unes avec les autres, parce que cette structure-là est rigoureusement impossible dans le secteur bancaire. Il y a des coûts fixes qui sont énormes, il y a des réseaux de distribution qui aujourd'hui sont plus en dur, mais des réseaux informatiques à administrer. Donc, on ne peut pas avoir une concurrence parfaite dans le secteur bancaire et financier, ça c'est vraiment une vision de manuel. Hein. Mmh. Mais en revanche, si vous voulez, on pourrait s'atteler davantage à cette concentration excessive dont le consommateur de services bancaires et financiers pâtit et dont la stabilité financière pâtit également.
Marianne Barbalayani.
Oui, je vais juste vous poser une question. Où est-ce que les taux de crédit sont les plus bas en Europe ?
Ben, répondez.
En France.
Peut-être, mais croyez que c'est le fait des banques ? C'est le fait des banques françaises.
Mais
c'est le
sûr.
Fait tout simplement du niveau très bas des taux d'intérêt.
Oui, qui sont les mêmes dans toute la zone euro. La politique monétaire est la même partout. Le taux de crédit que ce soit sur le crédit immobilier pour les particuliers ou pour le crédit aux PME, est le plus bas de la zone euro en France. Pourtant, nous sommes tous, avec nos collègues de la zone euro, dans la même politique monétaire. Donc, cela veut bien dire que les banques françaises, dans des conditions qui sont les mêmes que celles de leurs homologues, rendent un meilleur service à l'économie, rendent un meilleur service à leurs clients, que ce soit les particuliers ou les entreprises. De la même manière, vous parliez tout à l'heure de taux de censure, d'autocensure de la part des clients. C'est un débat qui existe depuis très longtemps parce que effectivement, comme les chiffres des banques centrales sur l'accès au crédit des PME ou sur l'évolution des encours sont bons et montrent que les banques françaises sont les meilleures de la zone euro. Ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'on a vis-à-vis de la banque, comme toujours, une approche idéologique. Et donc, dans l'idéologie, on estime qu'il faut contester la réalité. La Banque de France, qui n'est pas donc une institution, qui est une institution publique, qui est la Banque centrale, a donc été amenée à mesurer ce taux d'autocensure. Vous savez que depuis quelques trimestres,
brièvement,
elle le fait. Mmh. Cela représente 2%. Il y a un taux d'autocensure qui a été mesuré par la Banque de France à 2% des raisons pour lesquelles les chefs d'entreprise ne demandent pas de crédit. L'immense majorité des raisons pour lesquelles les chefs d'entreprise qui ont été interrogés par la Banque centrale ne demandent pas de crédit, c'est parce qu'ils n'ont pas un carnet de commandes suffisamment rempli.
Et pourquoi ?
Ils n'ont pas de projet. Pourquoi ? Parce que on sort d'une période économiquement difficile, mais qui commence à reprendre. Et donc, cette histoire d'autocensure, elle a été mesurée objectivement. Je crois que vous êtes économiste, donc vous regardez, je suppose, les statistiques objectives. Elles sont faites par la Banque de France. Mmh. Donc, je veux dire, on est typiquement, je ne sais pas si nous, on a un blabla banque, mais il y a aussi un blabla banque bashing. Parce que le blabla banque bashing, c'est justement de refuser la réalité des chiffres, comme disait une certaine candidate aux élections présidentielles, quand les chiffres ne confirment pas ce qu'on dit, c'est parce que les chiffres mentent. Eh bien, les chiffres, eux, ils sont là. Donc, je ne comprends pas qu'on ait des économistes qui continuent à tenir des discours qui ne sont pas confirmés par les chiffres. Ça dépasse l'entendement.
Je ne pense pas être dans l'idéologie et dans le bank bashing.
Alors, on va aller voir ce qui se passe aux États-Unis, où il y a aussi un lobby bancaire assez puissant. On va faire le point sur cette question avec Pierre-Yves Dugas, correspondant de RFI à Washington. Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Jean-Pierre.
Pierre-Yves, on sait que le secteur bancaire est très important pour l'économie américaine. Quel est ce lobby bancaire ? Qu'est-ce qu'il représente aux États-Unis ?
Jean-Pierre, la finance américaine est extrêmement diversifiée et il y a donc plusieurs lobbies bancaires. Par exemple, les grandes banques de dépôt ne cherchent pas la même chose que les petites banques. Or, ne l'oublions pas, il existe pas moins de 5000 petites et moyennes banques aux États-Unis. Et elles sont d'ailleurs moins impopulaires que les grandes banques et elles demandent à être moins fortement régulées que les grandes. Les grandes banques elles-mêmes sont très différentes. Bank of America et JP Morgan Chase sont des grandes banques de dépôt, mais qui sont aussi des grandes banques d'investissement. Elles interviennent sur tous les marchés, dans tous les métiers. Wells Fargo, qui est la troisième plus grande banque américaine, à l'inverse, est absente des métiers de Wall Street. Et Goldman Sachs ou Morgan Stanley, deux piliers de Wall Street, collectent très peu de dépôts.
Alors, Pierre-Yves, comment ces banques font-elles pour faire avancer leur cause ?
Money, money, money. C'est leur métier. Et les banques et les établissements financiers américains sont spécialisés dans la distribution de l'argent pour influencer le système politique. Le lobby des maisons de Wall Street a financé par exemple à lui tout seul 13% des dépenses des cérémonies d'investiture de Donald Trump en novembre dernier et 95 millions de dollars l'an dernier pour financer les campagnes d'élus du Congrès. Les banques de dépôt, elles, par leur lobby, ont dépensé quelque 60 millions. Ces sommes permettent aux banques d'avoir un accès direct aux élus et à leurs collaborateurs, une fois qu'ils sont en place, et donc, elles sont en mesure d'influer la manière dont ils vont rédiger des projets de loi.
Alors, on comprend bien qu'il y a plusieurs types de banques, Pierre-Yves Dugas. Est-ce qu'elles défendent les mêmes intérêts ?
Eh bien, les petites banques se moquent, par exemple, de l'interdiction qui est faite, en gros, depuis 2010, pour les grandes banques de risquer leurs fonds propres dans des opérations de trading. Les petites banques ne sont pas sur ces métiers. À l'inverse, certaines grandes banques voudraient lever cette interdiction aujourd'hui. Et puis, il y a les non-banques, qui représentent plus de la moitié de l'offre de crédit aux États-Unis, alors qu'en Europe, les banques dominent toujours. Il s'agit de compagnies d'assurance, de fonds de pension, de fonds spéculatifs, de sociétés de crédit. Des noms comme Quicken Loans, Caliber Home Loans, autant de sociétés qui sont en passe collectivement de dominer le marché du crédit immobilier, sur lequel les banques classiques sont de moins en moins présentes. Ces non-banques veulent se protéger des règles applicables aux banques, avec moins d'exigences, par exemple, en termes de fonds propres et de transparence.
Alors, merci Pierre-Yves Dugas, c'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des banquiers et des craintes fondées ou non qu'ils inspirent. Deux invités autour de ce micro, Marianne Barba-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française, et Jezabel Coupet-Soubéran, auteur du livre « Blabla Banque, le discours de l'inaction » aux éditions Michalon. Jezabel Coupet-Soubéran, est-ce qu'il y a des parallèles entre ce qui se passe en France et aux États-Unis ?
Bien sûr, oui, il y a des parallèles en ce qui concerne le fonctionnement du lobby bancaire.
Il y a l'exemple d'Emmanuel Macron, mais on voit quand même moins de financiers purs au sein du gouvernement français et des dirigeants français que dans au sein du gouvernement américain.
Non, je crois qu'il y a en France et en Europe des connexions très fortes entre le secteur bancaire et la haute fonction publique. C'est manifeste en France, tous les grands dirigeants de banques sont pour la plupart issus de la haute fonction publique et ont généralement, si vous voulez, un parcours partant de l'ENA, qui les mène à l'inspection des finances, passant très souvent par le Trésor et qui ensuite les conduisent à la direction d'une grande banque, avec un phénomène de plus en plus courant de ce qu'on appelle les revolving doors, hein, ces allers-retours entre la haute fonction publique et puis le secteur bancaire et financier. Donc les connexions sont très fortes. Alors les dépenses, elles sont peut-être moins directement, si vous voulez, des dépenses pour financer des campagnes. En revanche, eh bien, il est vrai aussi que pour les grandes banques françaises ou pour les grandes banques européennes, il y a des millions d'euros qui sont dépensés chaque année pour aller s'installer au plus près du législateur européen, pour aller s'installer près de la Commission européenne et ainsi essayer d'infléchir les discussions et les directives en cours d'écriture. Et puis surtout, et ça opère partout dans le monde, il y a cette capture intellectuelle qu'on évoquait tout à l'heure. Là, vous n'avez même plus besoin de dépenser de l'argent. Il faut simplement distiller un discours, et ça c'est très bien fait. Il y a cette rhétorique selon laquelle la réglementation c'est mauvais pour la croissance, c'est mauvais pour le financement de l'économie, c'est mauvais pour le crédit, ça a des effets pervers, ou bien encore ça ne sert à rien parce que le secteur bancaire est trop le secteur bancaire est au-delà, le système bancaire et financier est de toute façon quelque chose de foncièrement instable ou de trop complexe, et puis les règles seront contournées. Donc systématiquement, si vous voulez, on a ce type de discours qui irrigue les analyses dans les médias.
Mais nous ne disons pas du tout cela. En fait, je ne comprends pas tellement pourquoi d'abord on considère... Bon, j'aimerais que nous soyons aussi puissants qu'on veut bien le dire, etc. Si on regarde ce qui se passe depuis de nombreuses années et depuis la crise, assez légitimement, et nous n'avons d'ailleurs jamais dit le contraire, il y a eu un mouvement de réglementation bancaire très fort après la crise financière. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'éléments qui, dans la réglementation...
On parle de 2007,
oui, la crise financière de 2007-2008. Un certain nombre d'éléments qui avaient peut-être été trop négligés pendant la crise, comme par exemple la gestion de la liquidité, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je veux dire, ont fait l'objet de réglementations, et c'est un mouvement qui est toujours en cours, avec des débats assez lourds à Bâle, à Bruxelles, etc. On vient d'avoir une proposition de directive de 500 pages déposée par la Commission européenne. Donc si l'objectif des banques était de n'avoir aucune réglementation, je dois battre ma coulpe, parce que franchement, on n'y réussit pas tellement. Notre discours n'est pas sur l'anti-réglementation. D'ailleurs, moi j'entends toujours mes adhérents dire que pour un secteur bancaire, le fait d'avoir une réglementation et une supervision de qualité, parfois assez tatillonne, etc., c'est plutôt un atout sur le long terme. C'est d'ailleurs un des atouts fondamentalement du secteur bancaire français, qui est, je le rappelle, celui qui dans la zone euro est le seul à ne pas avoir coûté en net aux États, que d'avoir eu, sans aucun doute, depuis de nombreuses années, une réglementation, une supervision forte. Et nous ne nous sommes pas mobilisés en tant que fédération contre l'ensemble des réglementations. Il y a des réglementations qu'on soutient, il y a des mouvements qu'on a soutenus, comme l'union bancaire, qui est évidemment très lourde pour les banques, qui coûte cher, mais que nous avons considéré comme étant une évolution réglementaire favorable. Maintenant, il y a des domaines dans lesquels la réglementation nous semble inadaptée, et c'est lorsqu'elle nous semble inadaptée ou lorsqu'elle nous semble créer des distorsions de concurrence entre secteurs bancaires au détriment des banques françaises que, oui, nous défendons, et j'en suis fière, eh bien là, oui, nous intervenons.
Isabelle Coupet-Soubéran.
Oui, bien sûr que le lobby bancaire va pas essayer, si vous voulez, de défendre l'idée qu'il faut supprimer toutes les réglementations. Ça, ce serait absurde. Comme souvent, le diable est dans les détails, d'accord. Et les règles de fonds propres, eh bien, vous les avez contrées. Le renforcement des règles de fonds propres, vous les avez contrées et vous continuez de le faire. La réforme structurelle européenne, vous l'avez contrée. Vous-même, vous vous êtes exprimé sur le sujet lorsque Michel Barnier avait défendu son projet, la taxation
Michel
des transactions
Barnier,
financières.
Michel Barnier, à l'époque, ancien commissaire européen.
Ouais. Oui. La taxation des transactions financières, il ne se passe pas une seule conférence consacrée un peu au sujet, à laquelle je participe, sans que j'entende un représentant du secteur bancaire dire tout le mal qu'il pense de la taxation des transactions financières. L'encadrement des modèles internes, qui serait amplement nécessaire, ça aussi, vous êtes en train de le contrer. Donc, bon.
Alors, il y a un contre-exemple dont on va parler maintenant, c'est la Chine. La Chine où il n'y a pas de lobby bancaire, enfin qu'on sache, et on va en parler avec notre correspondante à Shanghai, Angélique Forget. Bonjour Angélique.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous.
Angélique, est-ce qu'on peut dire que les banques chinoises sont sous la coupe du pouvoir communiste ?
Oui, les 5 banques commerciales chinoises sont toutes publiques. La plus connue d'entre elles, c'est la banque ICBC pour Industrial and Commercial Bank of China, et c'est la plus grande banque au monde. Même si l'État les pousse vers la bourse, elles restent toutes détenues à hauteur de 70-80% environ par l'État chinois. Les patrons de ces 5 grands établissements sont tous des membres éminents du Parti communiste chinois, nommés par le pouvoir. Ça, c'est pour les banques commerciales, mais il y a aussi donc la Banque Centrale Chinoise, la Banque Populaire de Chine, et puis enfin un troisième appareil de ce système bancaire, le CBRC. C'est l'autorité de régulation bancaire, et elle est dirigée là aussi par un haut membre du Parti communiste chinois.
Angélique Forget, est-ce qu'on peut dire que ces banques publiques sont au service de la politique du pouvoir communiste en place en Chine ?
Exactement, ça a été le cas déjà en 2008, quand le pouvoir chinois a lancé son vaste plan de relance. Les banques d'État ont toutes été incitées à ne pas lésiner sur les prêts. En 2010, le premier ministre chinois Wen Jiabo s'en félicitait. Il avait alors déclaré « L'avantage de notre système socialiste, c'est que nous pouvons prendre des décisions très rapidement et les mettre en œuvre avec efficacité. » Car il le sait, hein, sans les banques d'État instrumentalisées par le parti, tout serait allé moins vite. 42 ans, il a fallu construire en masse des routes, des aéroports, des autoroutes, des métros, des hôpitaux, des centrales électriques, et il fallait financer tout ça. Ça, c'était en 2010, mais c'est toujours vrai en 2017. Les banques d'État, aujourd'hui, elles permettent de financer des entreprises publiques qui sont pour grand nombre d'entre elles en surproduction. Mais c'est ce qui permet aussi de maintenir l'emploi, de préserver les salaires et même de financer des programmes sociaux. Tout ça, c'est indispensable pour maintenir la paix sociale en Chine.
Isabelle Coupet-Soubéran, ce témoignage d'Angélique Forget, c'est le monde parfait. Les financiers sous la houlette des politiques.
Maintenant, vous voyez que c'est loin d'être le monde parfait, parce que les connexions sont fortes. Alors, elles jouent pas dans le même sens, et votre correspondante l'a bien souligné. Les grandes banques publiques chinoises sont au service du pouvoir politique, et ce n'est pas l'inverse, comme ce qu'on observe plutôt de notre côté. Pour autant, ces banques publiques, elles deviennent énormes, et en ce sens, eh bien, elles deviennent systémiques. Alors, pour l'instant, elles sont sous contrôle, mais le secteur bancaire chinois n'est pas à l'abri hein, d'un grave problème d'instabilité, et pas à l'abri d'une crise. Par ailleurs, il y a quelque chose de très inquiétant en fait dans le système financier chinois, c'est l'essor de ce que l'on appelle le shadow banking. Hein, c'est ces entités non bancaires qui réalisent à peu près les mêmes opérations, qui sont très présentes notamment dans la distribution du crédit et qui ne sont pas encadrées comme les banques. Donc non, c'est vraiment pas un système idéal non plus. Et il me semble, si vous voulez, que c'est pas tant la nature de la propriété du capital qui importe. Je crois pas qu'on fonctionnerait mieux avec des banques entièrement nationalisées, un ensemble de banques publiques. Il faut un écosystème banque privée, banque publique. Et ce qui importe, c'est la destination des ressources des banques. Où vont ces ressources? Il faut que ces ressources soient destinées à l'économie réelle, soient orientées vers l'économie réelle.
Marianne Barbalayani, ce sera le mot de la conclusion de cette émission. C'est le contre-exemple pour vous, ce qui se passe en Chine.
Et si vous voulez, l'économie chinoise et l'économie française ou l'économie européenne fonctionnent différemment. Et on a donc des systèmes qui sont très différents, y compris justement sur la propriété du capital. On n'est pas dans un système communiste en France. Il y a eu des banques nationalisées à une certaine époque. C'est loin derrière nous maintenant.
Mais est-ce que vous pensez que les banquiers chinois sont plus rassurants que les banquiers français ?
Je ne sais pas. Je ne pense pas que les banquiers français soient inquiétants. Ils ne le sont pas d'ailleurs parce qu'ils font bien leur travail. On a un coût du risque dans les banques françaises qui est très bas. Donc on est un système qui est bien régulé en termes de gestion du risque.
D'autre part... Je vois Isabelle Coupet-Soubéran faire la grimace, mais on ne va pas recommencer le débat. Cette émission est maintenant terminée. Merci à toutes les deux, Isabelle Coupet-Soubéran, Marianne Barbalayani, d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur le site internet de RFI à la page de l'émission et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.